Dieu vous bénisse. On va prier. Père céleste, c'est vers toi que nous tournons nos cœurs et nos regards. En ce moment où tu nous donnes encore l'opportunité de nous retrouver, Père, autour de ta parole. Merci pour la protection et la force donnée à chacun de nous, Père, d'arriver en ces lieux. Maintenant, nous nous attendons à toi, toi qui ouvres l'intelligence, toi qui éclaires, puisses-tu nous éclairer. Nous venons tels que nous sommes, Père, afin que tu pardonnes nos manquements. Nous ne sommes que des hommes misérables, Père, mais qui avons reconnu le bras puissant de Dieu en notre âge. Et nous te disons merci pour cela, Père éternel. Aussi, purifie nos cœurs et crée en chacun de nous un cœur bien disposé, un esprit bien disposé. Oui, Père, nous en avons besoin, Père. Que ta lumière brille en chacun, Père éternel, ô Dieu, pour nous conduire, nous guider, nous soutenir, Père. Au milieu des combats, soit notre victoire. Au milieu des troubles, soit notre paix. Au milieu des maladies, soit notre guérison. Viens, Père éternel, accomplis ton œuvre, ô Dieu, dans chacun de nous. Et confirme ta parole, Père, comme tu l'as fait autrefois, Père éternel, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, Père, ô Dieu, éclaire, ô Dieu, éclaire-nous, Père éternel, et parle à chacun de nous, Père. Nous nous attendons à toi pour la suite. Au nom de Jésus-Christ, amen. Frère François ne sera peut-être pas là. Il devait peut-être pas partir au matin, au deuil. Bien. Ça fait quelque temps que je suis passé. On va aujourd'hui un peu voir tout ce qu'on a vu depuis le début de Gilgal. Gilgal à la gloire. Nous avons parlé donc d'Élie et d'Élisée. Ce sont des prophètes qui ont régné au temps d'Akab. En tout cas, Élie était le principal prophète en ces temps-là. Et il devait quitter en fait la scène pour ayant accompli sa mission. Il a eu le temps de former Élisée, son serviteur, un serviteur fidèle. Élisée avait eu cet appel lorsque Élie l'a appelé et il a dû abandonner ses travaux pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Et il n'a fait que suivre les prophètes de Dieu. C'était aussi pour lui un temps assez trouble, ou en tout cas assez, je dirais, très stressant pour lui parce que son maître devait s'en aller. Donc d'un côté, il devait voir le maître partir, il voulait bien garder le maître auprès de lui, mais de l'autre côté, Dieu le faisait rentrer dans sa mission. Et donc il avait une mission qu'il devait accomplir. Donc le départ d'Élie et l'entrée en mission d'Élisée étaient des moments importants. Très, très important. Et une chose qu'on a vue, c'est qu'Élisée avait constamment les regards sur les prophètes. Et c'est quelque chose que nous devons avoir à l'esprit, avoir constamment les regards dans la parole, sous la conduite du Saint-Esprit. Donc je disais qu'Élisée ne va jamais lâcher Élie, constamment ses yeux sur lui parce qu'il savait que le voir partir était pour lui l'accomplissement, ou en tout cas ce qu'il espérait le plus. Et sa détermination était grande pour obtenir ce qu'il voulait. Donc, ils sont partis de Gilgal et j'espère que vous vous rappelez encore du schéma qu'on avait fait, on en reparlera. Et de Gilgal, ils vont aller à Bethel et de Bethel, ils vont aller à Jéricho, ensuite ils vont traverser le Jourdain. Et on sait qu'au-delà du Jourdain, Élie va être enlevé et Élisée va recevoir la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Très, très important. La double portion, c'est le cadeau ou plutôt la responsabilité des premiers-nés. Je ne sais pas pourquoi je parle souvent des premiers-nés, mais c'est parce que l'Assemblée du Dieu vivant, c'est une assemblée des premiers-nés. Et on voit que Élisée de retour parmi les siens, on l'a vu avec les manteaux d'Élie. Et donc, ceux qui l'ont vu ont vite compris que Élisée était devenu le prophète qui devait maintenant conduire Israël dans la droite ligne. Vous écoutez le message, je crois que c'est une robe de seconde main, parce qu'il y en a qui vous ont écouté, ou une robe d'occasion. Frère Branham a prêché un message là-dessus. Donc, les voir avec les manteaux d'Élisée devait certainement inspirer la même crainte que celle qu'inspirait Élie, car les gens savaient que Élie était un prophète puissant et confirmé. Mais ce que les gens ignoraient, c'est qu'il avait sur lui la double portion de l'esprit qui était sur Élisée. Ceci nous montre que l'esprit peut se transmettre. Parce que l'esprit était sur Élie et il est passé sur Élisée. Et ceci est important dans le sens où Dieu interdit certaines pratiques, car derrière ces pratiques, il y a des esprits séducteurs. Comme il est dit, celui qui s'assied avec les moqueurs devient lui-même moqueur. Le monde spirituel est assez compliqué et difficile à comprendre. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à comprendre ce monde. Comme il y a des maladies physiques qui se transmettent d'une personne à une autre, les esprits aussi se transmettent d'une personne à une autre. C'est pourquoi il est important de savoir avec qui vous vous associez. Très, très important. Cherchez à discerner l'esprit qui anime la personne. Et si c'est un bon esprit, alors vous pouvez le fréquenter. D'ailleurs, il est souvent dit, « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Tes fréquentations révèlent ta nature. Dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 33 à 34, il est dit, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens comme il convient et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » Ce qui veut dire qu'il faut s'associer avec les bonnes personnes si vous voulez exceller. Celui qui veut rester propre ne joue pas avec ce qui se vautre dans la boue. Il ne sera pas alors surpris qu'il voit qu'il est sali par ce qui se vautre dans la boue. OK, laissons cela de côté. Revenons maintenant au schéma qu'on avait fait les fois passées. Donc, nous avons vu que d'un côté, il y avait la sortie des enfants d'Israël et de l'autre côté, leur entrée en terre promise. Ça, c'est le premier schéma. Et le deuxième, c'est l'enlèvement d'Élisée. L'enlèvement d'Élie. Je vais peut-être faire revenir à ce schéma. Donc, nous avons vu que on peut tracer une ligne, comme ça, c'est peut-être plus simple. Nous avons vu ici, c'est l'enlèvement d'Élie. Il y avait des étapes qu'ils ont dû franchir. Donc, il y avait Jéricho. Avant Jéricho, donc il y a eu le Jourdain, ensuite il y a Jéricho, il y a Bethel. Puis il y a Gilgal. Ce sont les Donc ils sont partis de Gilgal pour aller au-delà du Jourdain. Et c'est au-delà du Jourdain qu'Élie a été enlevé et Élisée a reçu la double portion. Ensuite, on avait vu que Gilgal était l'endroit où ils ont campé pour la première fois dans la terre promise. Donc, juste avant Gilgal, il y a encore les Jourdains. Je suis en train de mélanger des schémas. Donc, il y a Jourdain, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont campé dans la terre promise à Gilgal. Et avant, donc, ils sont partis de... Ils sont partis de Ramsès. Et ils ont traversé la mer Rouge. Pour arriver à la mer Rouge, il y a trois étapes. Il y a Sukkot, Étham et Migdol. Nous avons vu que à Ramsès, c'est là qu'on a établi la première Pâque. La Pâque a été instituée là. Et on avait vu que le sang de l'agneau a été versé ici, dans chaque famille. On a vu aussi qu'à Gilgal, une répétition, on a déjà vu ça, à Gilgal, c'est là qu'ils ont été circoncis. Et c'est là aussi qu'ils ont eu la Pâque. Et on avait vu que de nouveau, à Gilgal, il y a un problème de sang. Ici, c'était le sang de l'agneau. Et là, c'était le sang de l'enfant qui devait naître. Et pour la Pâque, c'était le sang aussi des agneaux. Nous avons vu qu'entre les deux, pardon, de l'Égypte, de Ramsès à la terre promise, ou juste avant la terre promise, il y a 42 étapes. Ça veut dire qu'il y a 39 normalement étapes dans le désert. Et on verra qu'ils ont fait aussi 42 ans dans les déserts, même si on dit 40, mais ils ont fait 40 ans à partir de lorsqu'ils ont refusé de... Ils ont posé des problèmes avec les espions. Et Dieu leur a dit que vous ferez les tours, vous allez errer pendant 40 ans. Mais avant ça, ils avaient fait 2 ans. On reviendra sur ça si Dieu le permet la prochaine fois. On va s'élever pour lire Exode 12. Exode 12, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. » On va prier. Merci encore, Père, pour cette portion des Écritures qui a été lue. Maintenant, nous nous attendons à toi. Guide-nous, conduis-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous voyons ici que en Égypte, donc à Ramsès, c'est là que Dieu va leur donner un nouveau calendrier. On en avait déjà parlé. On remarque que les 10 de ce mois-là, ils devaient faire le choix de l'agneau. Les 14 du 1, ils devaient tuer l'agneau. Donc, ils devaient immoler l'agneau. Le choix de l'agneau, il devait garder l'agneau pendant quelques jours pour pouvoir l'observer. Parce que la condition était que l'agneau devait être sans défaut, il devait être mâle et âgé d'un an. Donc, il devait observer s'il y avait un défaut sur l'agneau ou pas. Ensuite, après la période d'observation, s'ils l'agneau remplissait les critères, on l'immolait. Et son sang était mis sur les poteaux et les linteaux des portes des maisons. Et l'agneau, le sang était mis sur la porte, mais l'agneau était consommé, on le mangeait dans la nuit même. On va lire Josué 4, à partir du 19e verset. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père « Que signifient ces pierres ?» vous en instruirez vos enfants et vous direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec. » Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge qu'il mit à sec devant vous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tout le peuple de la terre sache que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de votre Dieu. Remarquez ici, ils ont passé à sec la mer Rouge, ils ont passé à sec le Jourdain. Ensuite, on nous dit que les 10, ici donc on a les 10 du 01, c'est là qu'ils sortirent du Jourdain pour aller camper à Gilgal. Et les 14 du 1, ils célébrèrent la Pâque. Si vous remarquez, vous voyez les mêmes dates. Hein? Les mêmes dates. Et on reviendra sur ça, parce que ça a aussi à voir avec les fêtes. Donc, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé le Jourdain à sec. Et si nous allons plus loin, on voit que Élisée et Élie ont traversé le Jourdain à sec. Il y a 3 cours d'eau qu'ils ont, si on regarde ça en un seul bloc, qu'ils ont 2 cours d'eau, mais 3 fois, ils ont traversé. On reviendra sur ça, sur l'eau. On a, je crois, déjà parlé de ça. On va encore lire Josué 5. En ce temps-là, à partir du verset 2, « En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Araloth. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étant morts dans les déserts pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, mais tous les peuples nés dans les déserts pendant la route après la sortie d'Égypte n'avaient point été circoncis. L'ancienne génération est morte dans les déserts parce que ils avaient eu peur des Anakim, les géants qui étaient dans la terre où ils devaient s'installer. Et c'est à partir de ce moment que Dieu va leur dire que vous allez faire 40 ans dans les déserts. Donc si on veut compter les 40 ans, on devait les compter à partir de là. Bien. Donc nous avons vu que c'est à Gilgal que ceux de la nouvelle génération furent circoncis, la vieille étant morte dans le désert. Il est toujours question de sang. J'ai mis ce schéma ici parce que ce schéma, on en aura besoin prochainement, si Dieu nous le permet, pour voir un peu, toujours en rapport avec la femme. On verra certaines choses qui sont là-dedans, pour montrer comment Dieu cache des réalités très profondes dans sa nature. Donc, en Égypte, le sang de l'agneau était mis sur les portes des maisons, c'est ce qu'on a vu. Par contre, à Gilgal, c'est au niveau de la porte de vie de l'organe reproducteur du nouveau-né que le sang fut versé. Ceci est très important parce que l'alliance que Dieu scelle avec l'homme, c'est toujours l'alliance des sangs, comme l'alliance entre l'homme et la femme. Bien. Donc, ce qui scelle une alliance entre Dieu et l'homme, c'est le sang. Ce qui scelle une alliance entre l'homme et la femme, c'est le sang. Ce sont les deux portes de la vie, l'une pour transmettre la vie et l'autre pour donner ou manifester la vie. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. En Égypte, avant qu'ils quittent, il y a eu rassemblement ici. Tout le peuple devait être à à Ramsès. À Gilgal, il y a eu aussi rassemblement. Rassemblement au campement, c'est la même chose. Je suis en train de vous montrer les parallélismes qui existent entre ce qui s'est passé en Égypte et ce qui va se passer dans la terre promise. Et on verra pour les étapes, les 42 étapes, mais retenez que ce qui s'est passé en Égypte est quasiment la même chose que ce qui se passe dans la terre promise, si ce n'est que sous un autre regard ou sous un autre rapport, mais c'est la même chose. Ici, avant qu'ils ne partent, il y a eu rassemblement. Dans la terre promise, avant qu'ils aillent conquérir les pays, il y a eu aussi rassemblement. Et le rassemblement est très, très important. Donc, premier campement, Ramsès pour quitter l'Égypte, un autre rassemblement pour conquérir les pays. Et c'est de là que, à Gilgal, qu'Élisée et Élie vont partir. Donc, le départ et la marche sont donc censés se faire dans l'unité, car il y a rassemblement avant toute chose. On ne peut pas les combattre s'il n'y a pas un rassemblement. Les militaires le savent bien. Les combats sont censés se faire dans l'unité. Vous marchez comme un corps et vous combattez comme un corps. Tout est censé se faire dans l'unité de la foi. Je crois que Frère François en a parlé récemment et nous devons tous être amenés à cette unité de la foi. Très important. être amené à l'unité de la foi. Et c'est pourquoi Dieu, avant qu'il commence quelque chose, pour le départ, il y a rassemblement, pour conquérir le pays, il y a aussi rassemblement. Donc, important, tout doit se faire dans l'unité. Et parce que l'unité fait la force. Ici, en Belgique, la devise, c'est quoi ? C'est l'union fait la force, je crois. C'est la devise des Belges. Remarquez, pour passer de l'Égypte au désert, ils ont traversé la mer Rouge. Pour passer du désert à la terre promise, ils ont traversé le Jourdain. Élie et Élisée, pour passer, je prends particulièrement Élie, pour passer d'Israël à la gloire, il va traverser le Jourdain. Ce sont des étapes qu'on peut relier avec justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. L'eau est très, très important. On verra ça peut-être dans les prochaines fois si Dieu nous donne l'occasion d'approfondir cela. Mais il y a toujours de l'eau. Chaque fois qu'on veut passer d'une dispensation à une autre, il y a l'eau qui intervient. Et si vous vous souvenez, on avait parlé il y a quelque temps que l'eau était aussi le type du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit dans toutes ces étapes-là. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à passer de la justification vers la sanctification, de la sanctification vers le baptême. C'est le même Saint-Esprit. Bien. Une chose assez étrange qu'on voit aussi, pour montrer que l'eau joue un rôle très, très important. Quand un enfant naît, l'une des premières choses qu'on fait, on le lave. Quand quelqu'un est baptisé, on le plonge dans l'eau. Ce sont des étapes importantes de la vie. Quand quelqu'un meurt, on le lave. N'y a-t-il pas là une signification plus profonde que nous devons saisir? Ce sont les trois étapes importantes de la vie. Bien. Sortir de l'Égypte, on avait déjà vu ça, c'est mourir à l'Égypte. Et on avait vu que dans les déserts, ils sont sortis de l'Égypte, ils ne voyaient plus d'Égyptiens, mais l'Égypte était en eux. Ensuite, ils sont passés, en quittant les déserts, Dieu voulait faire sortir l'Égypte qui était en eux pour que le Saint-Esprit puisse prendre place. Et c'est ce qu'on voit. Donc, il quitte ici pour la terre promise. Ceci est très, très important de pouvoir voir que Dieu va sortir l'Égypte du cœur des enfants d'Israël et ils vont arriver à Gilgal et on avait vu que Gilgal signifiait « J'ai enlevé l'opprobre de dessus vous, hein, l'opprobre de l'Égypte. » Donc, c'est là, lorsqu'on passe le Jourdain, que l'Égypte ne dit plus rien pour vous. Le monde n'a plus d'emprise sur vous. Tant que vous êtes encore là, l'Égypte est encore avec vous. Et vous faites naturellement les choses de l'Égypte. Mais c'est une progression. Dieu ne chasse pas les bêtes sauvages en une seule fois. Il le fait progressivement. Parce que, je crois, si vous lisez dans Deutéronome, je crois. Vous pouvez voir ça. Mais il a dit que je ne chasserai pas les nations qui sont devant vous en une seule fois, mais je le ferai peu à peu de peur que le pays soit envahi par d'autres bêtes. Donc, Dieu fait les choses progressivement. Il le fait petit à petit. Il vous délivre des choses petit à petit jusqu'à ce que la victoire soit totale. Bien. Donc, sortir de l'Égypte, c'est mourir à l'Égypte. Et mourir, c'est le ministère de la mort. Ministère de la mort. Et le ministère de la mort, c'est Moïse qui en était, je pourrais dire, le représentant. Ensuite, entrer dans la terre promise, on avait vu que c'était la naissance, le ministère de la vie ou du Saint-Esprit. Et ici, c'est représenté par Josué. C'est Josué qui va conduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Moïse va juste les sortir de l'Égypte et les conduire aussi dans le désert. Mais pour l'entrée, Dieu a eu une autre dispensation. Donc c'est sous le commandement de Moïse que Israël est sorti de l'Égypte et c'est sous le commandement de Josué que Israël est rentré dans la terre promise. Moïse est le type de la loi. Et la Bible dit que la loi n'est qu'un pédagogue, mais elle ne peut pas nous sauver. Elle était là, c'est ce que la Bible dit, elle était là pour nous conduire à Christ. On peut lire Galates 3, à partir du verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. On ne va pas toute votre vie vous enseigner. C'est ça, être constamment sous ces pédagogues. Il y a un temps où vous devez prendre vos responsabilités. Et la foi est ce qui nous permet d'avoir cette responsabilité. On n'est plus sous l'autorité du pédagogue. Entrer dans la terre promise, c'est naître dans cette terre. C'est le ministère de la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'était sous le commandement de Josué. Dans Osée 12, 17, il est dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Moïse était le prophète pour la sortie des enfants d'Israël, et Josué était le prophète pour l'entrée dans la terre promise. C'est par le Saint-Esprit que nous entrons dans ce corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Josué est comme le type du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui a fait rentrer le peuple dans la terre promise. Dans 1 Corinthiens 12, 13, nous pouvons lire, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Dans Éphésiens 1, 13, il nous est aussi dit, « En lui, ça veut dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Donc, si on revient au schéma, j'ai déjà parlé un peu de ce parallélisme, mais pour résumer, ce qu'on trouve ici, c'est presque ce qu'on trouve là-bas. En Égypte, on peut voir, le rassemblement s'est fait à Ramsès, et dans la terre promise, le rassemblement s'est fait à Gilgal. Et cela s'est fait les 10 du premier mois. Le 14, on a vu le sang fut versé, tant à Ramsès, donc au départ, qu'à Gilgal, là où est parti Élisée. Donc, nous pouvons continuer à considérer ces choses. Il y a trois étapes. Donc, à partir du rassemblement, il y a trois étapes pour traverser la mer Rouge. Et ici, c'est pareil aussi, à partir du rassemblement, il y a trois étapes, parce que cette étape ici, c'est cette étape où Élie est enlevé. C'était au-delà du Jourdain. La traversée de la mer Rouge s'est faite à sec. La traversée du Jourdain s'est faite à sec. Ici, c'est le ministère de la mort, hein, la mort de l'agneau. Mais là, c'est le ministère de la vie, la naissance. On reviendra sur ces notions pour montrer que tout ce que Dieu fait, c'est pour conduire à la vie. C'est la seule chose. Et donc, il nous faut quitter l'état de mort vers l'état de vie. Mais c'est une progression. Une progression. Ça ne se fait pas en un coup comme ça. Et nous avons vu, si vous vous souvenez encore, que cette étape ici, lorsque nous l'avons comparée à la femme, c'est la période où la femme est enceinte. On reviendra sur ces notions. Comme j'avais dit, la révélation vient par le Saint-Esprit. Et quand tu observes des choses, tu peux voir beaucoup de choses si Dieu t'aide à comprendre certaines vérités. Et quand on comprend certaines vérités, il y a des attitudes ou il y a des choses qu'on ne fait plus. Parce qu'on a compris pourquoi ces choses sont comme ça. Donc, on voit vraiment ce parallélisme. Ici, les législateurs, c'est Moïse. Et dans la terre promise, le général, c'est Josué. C'est lui qui conduit le peuple pour la conquête. Et comme je disais, nous reviendrons peut-être un jour là-dessus, ceci représente aussi les fêtes de l'Éternel. Si vous remarquez les dates des fêtes, il y a les fêtes de Pâques, fêtes de pain sans levain, et puis vous avez les fêtes des tabernacles, fêtes des trompettes. Quand vous regardez les dates, c'est aussi des dates qui sont similaires. Et si vous voulez, vous pouvez creuser plus pour les fêtes. Vous verrez que les dates sont quasiment les mêmes et même parfois, dans certains cas, la période, la longueur des fêtes, longueur en termes de jours, est quasiment les mêmes. Donc, il y a vraiment un parallélisme qui peut être fait entre les deux. Une chose qui est certaine, c'est que dans toutes ces étapes, le Saint-Esprit a toujours été présent. Même si on peut penser, ben, dans l'ancien temps, on parle beaucoup plus du Dieu qui est au-dessus, etc. Mais c'est le Saint-Esprit travaille pour la vie. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit est indispensable pour chacun de nous. Indispensable. C'est notre seul gage. Notre seul gage. Donc, on a besoin que Dieu puisse nous aider à comprendre ces choses que sans le Saint-Esprit, la vie n'est pas possible. Et comme il est dit, on doit rechercher absolument le Saint-Esprit. Chacun doit rechercher. C'est seulement à ce moment-là que nous comprendrons beaucoup de choses que nous ne comprenons pas parce que le Saint-Esprit n'est pas encore là pour nous éclairer sur certaines réalités. Il y a tellement de choses au travers de cette marche des enfants d'Israël que beaucoup de choses dans la vie, quand tu veux approfondir, tu te dis, il n'est pas possible de dire que ce monde est venu d'un chaos. Pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Il y a un être supérieur qui a créé tout ceci. Ouais. C'est tellement profond. Mais Si Dieu nous le permet, on creusera plus, mais aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ma prière est que chacun de nous puisse rechercher le Saint-Esprit. C'est vraiment ma prière, que Dieu puisse nous aider pour cela, parce que c'est le gage de notre salut. Sans lui, nous perdons notre temps. Prions. Bien-aimé, il est des vérités qui dépassent notre entendement. Et nous réalisons, Père ou Dieu, qu'il n'y a que toi et toi seul qui peux nous éclairer sur ces réalités. Car quand on a compris certaines choses, Père éternel ou Dieu, on regarde la vie d'une autre manière. Et pourquoi, Père ou Dieu, aide chacun de nous. Nous avons besoin de cette révélation, la révélation de qui tu es, Père. Car c'est cela, Père éternel, ô Dieu, la vie éternelle. Aussi, aide-nous, Père éternel, ô Dieu, alors que nous cheminons ici-bas, le temps, ô Dieu, est fort avancé. Nous voyons les choses se bousculer, Père éternel, ô Dieu, et nous ne savons, Père éternel, de quoi demain sera fait. Mais nous nous attendons à toi, Père, pour nous aider, pour nous éclairer, pour nous guider. Ô bien-aimé, que vraiment tu puisses soutenir chacun dans les secrets de sa vie, dans ses prières, Père éternel, ô Dieu, et que, ô Dieu, tu remplisses ton peuple du Saint-Esprit, que tu remplisses chacun de nous de ton esprit, Père éternel, ô Dieu, afin que toi tu sois glorifié dans nos vies, Père éternel, ô Dieu. Nous nous attendons à toi, bénis chacun de nous, Père éternel, ô Dieu, et éclaire chacun de nous, Père éternel, ô Dieu. Si toi, tu ne viens, Père éternel, nous éclairer, ô bien-aimé, nous ne saurions avancer, Père, parce que toi, tu es la lumière. Ainsi, nous nous attendons à toi, Père éternel. Viens, conduis-nous, guide-nous, Père éternel, ô Dieu, et mets la crainte de ton Saint-Nom en chacun de nous, Père, car c'est cela, Père éternel, ô Dieu, qui t'honore. Nous comptons sur toi, Père. Bénis chacun de nos pères, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.